CAC 48 en repli de 0,93% maintenant à 3643 points. C'était Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, on vous l'a promis, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, quand la petite histoire rejoint la grande, deuxième et dernière partie de notre émission sur Napoléon et les femmes. Les femmes en général détestaient Napoléon parce qu'elles n'en étaient pas aimées. Il les insultait sans délicatesse et ne les recherchait que pour un moment. Chateaubriand. D'histoire. Quelle est la femme que vous aimez le plus? Demanda un jour Madame de Staël à Napoléon. La mienne, répondit-il. Oui, mais quelle est celle que vous estimeriez le plus? Celle qui sait le mieux s'occuper de son ménage. Je le conçois encore, mais quelle serait pour vous la première des femmes? Celle qui fait le plus d'enfants, madame. Pour Napoléon, on le voit, le rôle des femmes se limitait à celui qu'il leur a d'ailleurs réservé dans son code civil, tout juste bonne à s'occuper du ménage, assurer le repos du guerrier et surtout permettre la reproduction de l'espèce. Avoir un héritier, c'est d'ailleurs ce qui obsédait Napoléon depuis qu'il avait transformé la République en un empire héréditaire. N'ayant pas eu d'enfant avec Joséphine, il fut longtemps persuadé qu'il était stérile, jusqu'à ce qu'en 1806, il fasse entrer dans son lit une femme dont tout le monde aujourd'hui a oublié le nom. Mais celle qui n'était alors qu'une des innombrables maîtresses de Napoléon devait pourtant devenir la mère de son premier enfant.
C'est moi, sire. Éléonore de Nuel. Pardon de venir si tard.
J'ai dit à Joséphine que je travaillais. Dire qu'on me pousse à répudier ma femme pour une princesse autrichienne, c'est comme traiterait de mari malhonnête si on me voyait en train de caresser une petite suivante de rien du tout.
Mais partie suivante, dame du palais électrice de sa majesté impériale.
Pardon. Joséphine qui rentre du théâtre.
Pourquoi n'est-elle pas entrée?
Parce qu'elle a 20 ans plus que toi et qu'elle est bien trop intelligente pour se soumettre à des comparaisons.
Michel de Decker, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est en vous lisant que j'ai découvert le nom d'Éléonore de Nuel.
De la Plaigne, oui.
Et dont j'ignorais totalement l'existence, qui n'est jamais qu'une des très nombreuses maîtresses de Napoléon, dont nous avons d'ailleurs déjà parlé avec vous hier. Alors celle-là n'aurait pas plus d'importance que d'autres, si, et ça j'ai aussi découvert, si elle n'est pas la première femme, au fond, à avoir donné un enfant à Napoléon.
Tout à fait. Elle était une lectrice de sa sœur Caroline, de la sœur de Napoléon. Et puis, Napoléon a été du dernier bien avec elle, comme on l'a vu. Il était avec la plupart des lectrices de la famille. Et puis, un jour, elle lui annonce qu'elle est grosse de ses œuvres, qu'elle porte un fruit. Et il est un peu soucieux, tout de même, parce qu'il n'est pas sans savoir que Murat est également aussi du dernier bien avec la belle Éléonore de Nuel. Donc, il attend. Et puis quand il découvre l'enfant, 9 mois plus tard, il est saisi parce que cet enfant a ses traits, a son visage, il en est sûr, c'est son fils, et Léonore dit mais on va l'appeler Napoléon. Mais non, Léon suffira, dit-il. Et en effet, cet enfant deviendra le comte Léon, le fameux comte Léon. Mmh.
Qu'est-ce qu'il est devenu, d'ailleurs?
Il ne sera pas une grande place dans l'histoire. Il sera médiocrement doté, renté, mais il a eu des héritiers, puisque je crois qu'en 1961, une des arrière-arrière-petites-filles s'est mariée, ou ça, aux Invalides, ayant obtenu l'autorisation du général de Gaulle de se marier aux Invalides.
Alors pour une fois, là, pour Napoléon, c'est une révélation, parce que comme Joséphine avait eu 2 enfants d'un précédent mariage, il était persuadé qu'il était stérile, voilà qu'il sait qu'il peut avoir un enfant.
Et là, Joséphine est stérile.
Et voilà, oui. Et il va commencer à envisager, évidemment, une séparation avec Joséphine. Qu'est-ce qui était prévu jusqu'à ce qu'il y ait plus tard l'aiglon? Qu'est-ce qui était prévu au cas de mort de Napoléon? On est dans un empire héréditaire, qui doit lui succéder?
Alors, qui devait lui succéder? C'était, on est dans une famille, c'est un petit peu les Atrides, parce que tout le monde prétendait pouvoir placer un héritier, mais théoriquement, il avait reconnu l'enfant de sa belle-fille, et de sa belle-sœur, Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine, qui avait épousé Louis, son frère, le roi de Hollande.
Alors, donc, il y avait aussi en compétition, si je puis dire, la sœur de Napoléon, Caroline, épouse de Murat, qui disait, ce sera mon fils. Enfin, bref, il se bagarre entre eux. Jusqu'au jour où, justement, Napoléon sait qu'il a un enfant. Alors, il y a une autre femme qui a beaucoup plus compté dans sa vie, qui est Léonore de Nuel, et qui va lui prouver qu'il peut être père. C'est une jeune Polonaise de 18 ans, mariée à un homme qui a 52 ans de plus qu'elle, et que Napoléon rencontre à Varsovie en janvier 1807.
Monsieur le comte et madame la comtesse Athanase Walewski.
Quand un si vieil homme épouse une si jeune femme, il devrait avoir à cœur pour se faire pardonner de la couvrir de bijoux. Mais je verrai y remédier.
Sire, ce n'est pas cela que j'espère de votre majesté. Mon pays n'existe plus. La Prusse, l'Autriche et la Russie l'ont dépecé. Rendez-moi ma Pologne.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Napoléon et les femmes, et cette première rencontre, donc, Michel de Decker, entre Napoléon et Marie Walewska, celle qu'on a surnommée l'épouse polonaise de Napoléon, qui est d'ailleurs une des seules femmes qu'il ait vraiment aimée, mais aussi une des seules qui lui ait résisté.
Et c'est pour ça qu'il l'a aimée, d'ailleurs, je crois, parce que elle ne cède pas immédiatement. Elle se fait prier, elle se fait même supplier, et pourtant, c'est une jeune femme qui est véritablement jetée dans l'arène, parce que toute la noblesse polonaise est là, à lui dire, mais, et même son vieux mari, Walewski, et tous les grands noms,
Poniatowski,
bien sûr, dont l'histoire rejoindra celle de la France définitivement, sont là en lui disant, mais allez, il faut vous sacrifier, et elle refuse, et ça va durer quelques semaines. Et puis un jour elle va craquer, elle va tomber.
Il faut rappeler pourquoi, hein, parce que la situation de la Pologne, on l'a vaguement entendu dans cet extrait de film.
Elle était dépecée,
et Napoléon y arrive à ce moment-là. Bon, il en direction de la Russie avant les accords de Tilsit. Il est question de recomposer la carte de l'Europe, oui. Et ce qu'elle veut, bien entendu, c'est l'indépendance de son pays qui est déchiré entre la Prusse, l'Autriche et la Russie.
Et Napoléon a des accents gauliens avant l'heure, puisqu'il est tout juste, il ne lance pas "Vive la Pologne libre", n'est-ce pas?
Il ne tiendra pas parole, justement.
Il ne tiendra pas parole, ça, c'est incontestable.
Mais il va y réussir à avoir, entre guillemets, j'aime pas ce
la
mot,
belle Marie.
La belle Marie Walewska. Alors, elle arrive finalement dans sa chambre, et là, alors là, j'étais suffoqué de l'apprendre en vous lisant, il la viole, littéralement.
La viole parce qu'elle s'évanouit, et quand elle se réveille, au bout de quelques semaines, n'est-ce pas, de cours assidus, elle refuse. Alors, ce qui la singularise, c'est qu'elle pleure. Elle pleure tout le temps. Et ça l'énerve, et il passe son temps à lui sécher les larmes. Sans doute est-il ému, parce que je crois qu'il va l'aimer tout de même. Et puis, elle s'évanouit. Et Napoléon, pendant cet évanouissement, la viole, en effet. Et ce qui est curieux, c'est que quand elle se réveille, est encore plus amoureuse, elle est véritablement devenue amoureuse de Napoléon.
Mais ils le sont d'ailleurs tous les deux, parce que lui-même va littéralement la faire venir dans tous les endroits d'Europe où il se trouve.
Oui, ils vont partir en voyage de noces quasiment à Fickenstein, à Mödling, à Fickenstein par exemple, où ils vont vivre dans un château qui n'était pas chauffé, il faisait moins 10 à longueur de temps, et en quittant ce château, la petite Marie découpera un bout de la tenture du lit à baldaquin, qu'elle gardera précieusement pendant toute sa vie, et qu'elle confiera à son fils d'ailleurs.
Alors, il la retrouve également à Vienne, où il se trouve après la victoire de Wagram, et c'est là qu'elle lui apprend, elle aussi, qu'elle est enceinte.
Absolument. Oui. C'est un fils, c'est une nouvelle fois un fils, qui deviendra le comte Walewski du Second Empire.
C'est-à-dire ministre des Affaires étrangères de Napoléon III.
Absolument. Et qui lui-même, parce que c'est un petit peu dans l'hérédité, aura un fils avec une comédienne ou une tragédienne, la fameuse et la célèbre Rachel. Comme quoi, l'histoire est une éternelle continuité.
Et pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de Joséphine, Michel de Decker, mais d'abord, elle est au courant de tout.
Oui, Joséphine a même tendance à propulser quelques-unes de ses amies dans le lit de son mari afin qu'il ne divorce pas, car elle craint le divorce, bien sûr. Elle sait que elle est stérile, elle le sait. Elle a été, après la folle vie que l'on a vue qu'elle a menée, elle a été, j'allais dire, blessée au champ d'honneur et elle n'est plus en état d'avoir un enfant. Alors elle envoie ses petites soubrettes, la Guilbeault, Madame de Matisse, tout le monde dans le lit de Napoléon, qui consomme, parce qu'on l'a vu, c'est un grand consommateur, mais ça n'empêchera pas qu'un soir, à Malmaison, Napoléon prendra Joséphine entre quatre yeux et lui dira « On se quitte ».
Maintenant, je crains d'être obligé de regarder l'avenir.
Ce qui veut dire ?
La Gramme est une victoire. J'ai failli tout perdre à Essling. J'ai besoin d'une longue période de paix à l'Est. Et la seule chance d'avoir cette paix, c'est un contrat de mariage entre la France et l'Autriche.
Tu veux dire entre toi et l'archiduchesse Marie-Louise?
Ce mariage m'aurait pu une d'avance, mais je dois tout sacrifier.
Je ne dois pas te justifier. Elle est jeune, elle. Elle n'aura aucun mal à te donner cet enfant dont tu rêves. Un héritier, enfin. Et tout de même, comme tu as changé. Après avoir tout fait pour détruire les monarchies d'Europe. Voilà que tu vas coucher avec une couronne.
Il ne s'agit pas de coucherie, Joséphine. Mais de la raison d'État.
Et c'était le 30 novembre 1809, une scène dont vous parlez dans votre livre, Michel de Decker, ça se passe à Fontainebleau, et puis il lui parle de raison d'État. Le divorce aura lieu quelques jours plus tard, elle s'y résigne finalement. Il faut dire que il va quand même être assez généreux
oui,
avec elle.
Oui, il va la doter, la renter, couvrir toutes ses dettes qui sont considérables, car on a vu que Joséphine avait passé sa vie à être couverte de dettes. Il va lui laisser la Malmaison, il va également lui céder le petit château normand dans la banlieue d'Evreux, le château de Navarre, que l'on appelait la Marmite, qui était un château absolument abominable, où on dépensait des stères de bois, c'était battu par les courants d'air humide. Elle y fera quelques séjours hâtifs seulement, et c'est la Malmaison qu'elle préférait naturellement, Joséphine.
Et il continuera d'ailleurs à l'y retrouver, à aller la voir. Leurs rapports vont rester vraiment amicaux, enfin ils vont changer bien sûr, mais ils vont rester très proches l'un de l'autre jusqu'à la mort de Joséphine.
Il reste en bon terme parce que Napoléon, on l'a vu, a aimé Joséphine. Et
l'incomparable.
L'incomparable Joséphine, et ne peut pas se passer d'elle. Et quand il a un petit souci, bien il galope jusqu'à la Malmaison, et elle le console, elle le câline, tout simplement.
Alors quand il divorce en 1809, oui. Il n'est pas question, contrairement à ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait de film, il n'est pas encore question de Marie-Louise d'Autriche. Alors, il sait qu'il veut un enfant, il faut pour cela qu'il épouse, évidemment, une autre femme que Joséphine, et alors, il y a le choix entre plusieurs femmes. D'abord, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas marié avec Marie Walewska? Il l'aime, elle a eu un enfant de lui, pourquoi pas elle? Elle est
comtesse. Parce qu'on en revient quasiment à l'ancien régime. Louis XIV faisait des mariages diplomatiques, des mariages de raison, des mariages d'État. La petite Walewski ne représente rien. La Pologne n'existe quasiment pas sur la carte. Alors, il préfère...
Il n'est pas décidé à en restaurer l'indépendance, d'ailleurs.
Non.
Il fera un grand duché de Pologne, mais bon.
Oui, ouais. Dirigé par la Saxe, par le roi de Saxe. Mais il est donc décidé à faire un mariage qui soit un mariage de raison, un mariage d'État, c'est-à-dire... du côté de la Russie ou du côté de l'Autriche. Mmh. Or, du côté de la Russie... Bon, il a envisagé d'épouser Charlotte de Bavière, mais quand on lui a présenté Charlotte de Bavière, il a reculé d'effroi, il a dit, mon Dieu, c'est une caricature. Mmh. Donc il ne pouvait pas l'épouser.
Il y avait aussi la sœur du tsar, Alexandre,
la grande duchesse Anne, mais quand on dit la grande duchesse Anne, elle était toute petite, elle avait 13 ans ou 14 ans, elle était à peine nubile, donc il n'était pas question qu'Alexandre la céda à Napoléon. Alors, on s'est retourné vers Vienne, vers l'Autriche, et Metternich a d'ailleurs été un des instruments qui a favorisé l'union avec la fille de l'empereur d'Autriche,
Marie-Louise,
la célèbre Marie-Louise.
C'est assez extraordinaire parce que on peut pas ne pas penser, justement, vous le disiez à l'instant, au mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne. Et c'est vraiment, il restaure la monarchie complètement. Il y avait aussi des favorites. Au fond, c'est Louis XIV, Napoléon.
Il a créé une nouvelle noblesse. C'est exactement la même chose. Colbert impose l'infante d'Espagne. Louis XIV, Napoléon lui-même s'impose une tête couronnée. la tête autrichienne en l'occurrence.
Il faut rappeler que la situation à l'époque de la politique, il est en guerre en Espagne, il craint que la guerre reprenne avec l'Autriche, aussi bien qu'avec la Russie, et évidemment ces mariages
la guerre couvre toujours,
Mais ces mariages étaient destinés à faire en sorte que l'Autriche, précisément, bascule du côté de la France, en même temps que Marie-Louise tombait dans le lit de Napoléon. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, comme aussi à l'époque de Louis XIV, il n'avait jamais vu Marie-Louise, sinon par
en
portrait,
oui,
en médaillon. Hein, comme on
et elle n'était pas très jolie, il s'inquiétait d'ailleurs, il posait des questions tout autour de lui, mais vous qui l'avez vue, comment, à quoi ressemble-t-elle? Alors, on ne pouvait s'empêcher de voir qu'elle avait les yeux un peu globuleux, qu'elle n'était pas, qu'elle avait moins de charme que n'en avait Joséphine, la belle créole, évidemment. Et puis, surtout, elle était une, peut-être un peu candide, un peu niaise. Il faut voir dans quelles conditions Marie-Louise avait été élevée. Elle était depuis toute petite, elle avait sur sa table de chevet une poupée figurant Napoléon, poupée qu'elle était priée de piquer à coups d'aiguille systématiquement avant de se coucher, avant de la fracasser sur le mur et de la taper à coups de pied. Et puis, elle avait été élevée dans des conditions puritaines exceptionnelles, dans la cour d'Autriche, là où Marie-Louise pouvait mettre ses jolis petits pieds. Dans la basse-cour même, il n'y avait pas de coq. Dans les cages, il n'y avait que des serins. Il n'y avait jamais une chatte ni une chienne. Un chien ni un chat. Tout était du sexe féminin. Si bien que quand elle s'est mariée, elle était convaincue que son papa était une femme, quasiment.
On se marie à l'époque, d'abord, ça se faisait dans l'Ancien Régime, par procuration, c'est-à-dire en l'absence du mari. Hein, on va chercher sa femme, en l'occurrence Marie-Louise à Vienne, elle se marie par procuration. Et alors, sur le chemin qui la sépare de Vienne de la France, là, je crois, qu'est-ce qui lui explique ce que sera l'amour?
Eh bien, Napoléon bondit, surgit...
Non mais attendez, avant, il y a un voyage, vous racontez ce voyage, justement, au retour de Moscou, et je crois que c'est une sœur de Napoléon qui était allée chercher pour lui expliquer comment les choses se passaient avec un homme.
Parce qu'elle ne savait rien, parce que toute sa jeunesse avait été vraiment feutrée, voire calfeutrée. Et puis bon, elle attend, parce qu'elle attend la révélation, elle aura la révélation, puisque Napoléon n'attend pas son arrivée à Paris, il bondit jusqu'à Compiègne, et puis là, il passe sa première nuit d'amour avec elle.
Ah oui, le 27 mars, hein, ça se passe le 27 mars 1810, et là tout de suite, il faut qu'il lui saute dessus. Elle n'est pas très jolie, mais enfin, bon, c'est Napoléon, il lui saute dessus.
Ça.
Et elle déteste pas ça du tout d'ailleurs.
Non, et elle y prendra goût. Bon, elle est un petit peu, comment dirais-je, toujours inquiète de sa santé, elle se plaint régulièrement, néanmoins, et on le sait, quand Napoléon la quittera, ou quand elle quittera Napoléon, elle aura une folle vie sentimentale, puisqu'elle aura une belle tribu d'enfants avec Neipperg, Bombel et tout un tas d'officiers autrichiens.
Disons qu'elle aimait la chose, alors ça va pas tarder à donner le résultat attendu, un garçon qui naît le 20 mars 1811, dans des conditions difficiles, malgré les efforts d'un des plus grands médecins de l'époque.
Corvisa, il y a sûrement quelque chose à faire. Si mes confrères et moi, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Je me vois maintenant obligé de demander à votre majesté qui nous devons choisir. C'est la mère ou l'enfant?
Elle.
Vous condamnez l'enfant?
Ma femme a le droit de vivre.
Il est d'usage que les souverains...
Si l'impératrice perd cet enfant, elle en aura d'autres. Elle est si jeune, docteur.
Bien sûr. C'est un garçon.
Et ma femme?
Épuisée, mais elle vivra.
Ordonnance. Le canon, monsieur. Sans un coup de canon, pour saluer la naissance de mon fils. À vos ordres, monsieur.
C'était la naissance du fils de Napoléon, l'Aiglon, le 20 mars 1811, salué comme il se doit par 101 coups de canon. C'est vrai ce qui s'est passé, il est né dans des conditions difficiles, et là on a eu un Napoléon assez différent avec les femmes. Il parle de sa femme, il n'hésite pas une seconde quand on lui demande de choisir entre sa femme et le fils qu'il attendait.
Oui, alors est-ce que ça procède d'une vraie sensibilité? Je me pose la question, parce que il se dit, bon, si le fils vit et que la mère meurt, le fils, on connaît les taux de mortalité infantile à cette époque qui sont considérables, mais si le fils meurt et que la mère vit encore, je pourrais lui en faire d'autres. En réalité, c'est ça.
Alors bon, ce fils naît, ce sera donc l'Aiglon. Alors, on aurait pu s'attendre, Michel de Decker, à ce que... Après son mariage, après la naissance de son fils, il se calme un peu, pas du tout. Il continue, même s'il aime sa femme, il continue à courir à droite et à gauche.
Oui, il continue à courir le guidou. Il revoit même la petite Walewski, à qui il a offert un hôtel particulier à Paris. Et il va la voir de temps en temps pour se faire sans doute consoler. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à vivre, Marie-Louise. Elle est, comment dirais-je, elle est hypochondriaque. Elle gémit toujours. Elle a des nausées. Elle n'est pas... Et puis, elle parle français couramment. Ça, c'est heureusement. Ils peuvent avoir des conversations. Elle parle, vous savez qu'elle parle 7 langues, Marie-Louise. Même le turc.
Ah bon ?
Eh oui, elle parle même le turc. Bon, avec Napoléon, il suffit de lui parler le français.
Alors, il fait des rencontres, même quand il voyage avec sa femme, il y a une certaine Émilie Pellapra, je crois,
qu'il avait déjà connue autrefois, qu'il retrouve à Caen, et avec laquelle il passe un après-midi crapuleux, car c'est le terme, ni plus ni moins.
Alors, on est en 1812, et là, c'est la campagne de Russie. Alors là, évidemment, il semble qu'avec les défaites, la libido de l'empereur ne soit plus la même.
Oui, il a beaucoup de soucis, évidemment. Il rentre à Paris, et puis il est obligé de se préparer à la campagne de France. Mais Marie-Louise est attachante à ce moment-là, car elle lui écrit régulièrement. Elle prend de ses nouvelles, elle l'appelle mon nana ou mon popo. C'est quand même très mignon d'être envoyé des Français, de se faire appeler mon popo. Oui. Et puis bon, hélas, les événements vont...
Oui, parce que bon, la campagne de Russie, c'est 500 000 morts. Hein. Il n'y a pas d'aventure, évidemment, de Napoléon à ce moment-là. Et puis alors, c'est vraiment assez pathétique, ça commence à le devenir. Il est abandonné, littéralement, par presque toutes les femmes qu'il a pu aimer et qui ne l'ont aimé, ou qui ne l'ont pas aimé, d'ailleurs. Hein. Mais, par exemple, à Fontainebleau, il arrive à Fontainebleau, après la campagne de Russie, puis la campagne de France, sur le point d'abdiquer, il n'y a plus personne. D'abord Joséphine, elle, qui est toujours à la Malmaison, elle reçoit carrément l'empereur de Russie dont les troupes défilent dans Paris.
Absolument, elle reçoit le tsar. Elle en mourra d'ailleurs plus tard, Joséphine, car elle avait noué des relations tout à fait amicales, mais sensibles tout de même avec le tsar. Et, un soir à la Malmaison, en se promenant, peut-être de façon un petit peu trop découverte, trop déshabillée, elle prendra froid et on sait qu'elle mourra d'une méchante pleurésie attrapée à la Malmaison dans les bras du tsar.
Alors plus tragique encore, il y a Marie-Louise qui finalement quitte Paris d'abord pour aller à Rambouillet,
de France,
et pendant la campagne de France, elle voulait rester, elle s'en va avec son fils
sur ordre de papa,
c'est-à-dire l'empereur d'Autriche, et elle va partir en Autriche à ce moment-là
et il ne la reverra plus.
Il ne reverra plus ni elle ni son fils. Ça c'est assez pathétique. Oui. Alors, il y a en revanche une femme, c'est toujours la même, Marie Walewska.
L'éternelle pleureuse et amoureuse.
Elle arrive à Fontainebleau, alors que Napoléon est sur le point de signer. Il a même tenté de se suicider quand il a appris que Marie-Louise était partie. Elle arrive pour le rencontrer. Il refuse de la voir. C'est assez pathétique.
Il refuse de la voir parce que c'est vrai qu'il sort de cette nuit où il a sorti un petit sachet de belladone, etc., qu'il avait avalé gaillardement. Et puis, la poudre était éventée, certainement. Et il s'en est sorti. Mais dans quel état? Il avait le visage émacié. Il était fatigué. Il ne voulait certainement pas se montrer devant la belle Marie dans cet état-là. Et puis, c'est vrai qu'il avait quand même d'autres soucis que faire, puisque la déportation se précisait et qu'il allait devoir rejoindre l'île d'Elbe.
Alors, l'île d'Elbe où il va retrouver Marie, qui va encore le voir avec son fils, avec Alexandre, fils, avec leur fils,
Alexandre.
Bon, il y a la mère, Laetitia. Mm-hmm. Il y a aussi Pauline. On a dit d'ailleurs, on parlait de la propagande anglaise hier. Les Anglais ont beaucoup insisté, ont voulu faire croire que Napoléon avait des rapports incestueux avec certaines de ses sœurs ou avec sa belle-fille Hortense.
Absolument, avec Pauline, Hortense et avec Stéphanie également, la petite Stéphanie qui était une nièce de Joséphine. Et il est vrai que Napoléon a été, paraît-il, car je n'y était pas bien sûr, mais il y a des témoins surpris en flagrant délit de propagation de la race, si je puis dire, dans les bras de la petite Stéphanie de Beauharnais.
En tout cas, quand il est à l'île d'Elbe, donc il est pratiquement seul. Il le sera encore plus lorsque, après son retour en France, les 100 jours et Waterloo, il est envoyé à Sainte-Hélène où il rencontre, évidemment, où il retrouve, où il constitue une espèce de cour microscopique assez ridicule d'ailleurs, et surtout il rencontre une jeune Anglaise de 15 ans qui fut peut-être le dernier amour de Napoléon, Betsy Balcombe.
Vous avez fini de dicter vos mémoires?
Presque.
Et qu'est-ce que vous avez écrit sur moi?
Rien.
Parce que je n'ai pas le moindre intérêt?
La couronne impériale de France fera moins pour ma légende que la couronne d'épines que m'impose à présent l'Angleterre. Et vous, petite fille, vous ne faites pas partie des épines, au contraire. Là, vous n'avez rien à faire dans ma légende. À mon cœur, c'est différent. Que puis-je vous offrir? Voyez-vous une babiole que vous aimeriez emporter en souvenir de moi?
Donnez-moi une mèche de vos cheveux.
Mais c'était
un extrait du très beau téléfilm de Yves Simenon avec, on l'a reconnu peut-être, la voix de Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, et avec cette Betsy Balcombe qui était toute jeune, je crois qu'elle avait 14-15 ans, ses rapports étaient platoniques avec cette jeune fille qui a emporté une mèche de cheveux, c'est vrai?
Oui, une mèche de cheveux, puis deux trois petites bricoles que Napoléon lui a données. C'était avant qu'il n'aille s'installer plus loin à Longwood, en attendant que
elle-même a dû quitter Sainte-Hélène. Alors, rapport platonique avec cette jeune, ou peut-être avec cette jeune Betsy Balcombe, beaucoup moins avec notamment la femme d'un des généraux qui accompagnait Madame de Montholon, Albine de Montholon.
Oui, à laquelle certainement il fait un enfant. Enfin, Madame de Montholon en était fière puisque c'est une fille qu'elle appelle Napoléon, d'ailleurs. Oui. Et puis bon, on a parlé de Fanny Bertrand aussi, la femme du
général Bertrand qui était là aussi.
Mais ça me paraît peu vraisemblable parce que il ne l'avait jamais apprécié. Déjà, à Rochefort, il l'avait jeté par-dessus bord. Et puis, il est vrai que dans les derniers mois de sa vie, avec ce cancer, ce méchant cancer qui le rongeait, sa chambre était devenue quasiment insalubre. Mmh. Et qu'on imagine difficilement une jolie jeune femme allant se jeter dans le lit d'un agonisant.
Il y en a eu d'autres aussi, une petite métisse, je crois.
Oui, une petite métisse qui s'appelait Esther Velzé, à laquelle il a certainement fait un héritier qui, lui, prétendra tout le temps, toute sa vie, être le fils de Napoléon. Il terminera sa carrière dans le Connecticut, où il fera du journalisme.
C'est étonnant, tous les destins des gens dont vous parlez dans ce livre. C'est en même temps pathétique et un peu triste, parce qu'on ne peut pas dire que ce dont nous avons parlé avec vous ces deux jours soit vraiment flatteur pour la légende napoléonienne. L'idée qu'il se faisait des femmes.
Mais oui, il ne s'en sort pas grandi, humain, trop humain, même quand on est empereur.
Ouais. Bon, écoutez, merci. En tout cas, on retrouve toutes ces histoires, elles sont beaucoup plus nombreuses que celles que nous avons évoquées, dans votre livre, Michel de Decker, Napoléon, les plus belles conquêtes de l'empereur, publié chez Belfond. Je rappelle aussi que vous animez tous les jours, à 8h40, une chronique d'histoire sur France Bleu Normandie. À lire également Napoléon, une biographie de Luigi Massili Migliorini, qui vient de sortir chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de Napoléon, donc un téléfilm d'Yves Simenon. Vous pouvez retrouver toutes ces références en contactant le service des relations avec les auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry et Benjamin de Lagatinet. Documentation, Virginie Bloch-Lenné et Cédric-Joseph Julien. Réalisation, Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un écrivain sur lequel vient de sortir une biographie passionnante, Romain Gary, mais tout de suite à 14h30, très précis, sur France Inter, c'est Musique et